Slate Podcast.
Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué, le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage d'une anonyme qui, après un très beau week-end partagé avec un ami devenu amant, se sent coupable et ne se fait plus confiance sur ses sentiments.
Lucille, je t'envoie ce petit audio sur un coup de tête parce que ça fait un moment que j'écoute tes podcasts et là, il vient de m'arriver quelque chose de complètement fou et je suis vraiment dans le trouble et j'ai besoin d'aide, je crois. Le week-end dernier, il y a un ancien copain à moi qui est descendu sur Marseille, là où j'habite. Et on a vécu quelque chose de hyper intense et sur un coup de tête, lui il habite dans ma ville natale et il devait rentrer pour travailler et moi j'avais quelques jours de repos et sur un coup de tête il m'a dit écoute viens et on prend Airbnb à deux et on passe du temps ensemble quoi. Et donc je suis partie avec deux culottes, deux chaussettes et en fait il s'est avéré que j'ai vécu un truc incroyable avec lui. Je me suis sentie enfin vivante. Je me suis sentie vibrée. J'étais connectée avec lui. On a des centres d'intérêt en commun hyper forts. Et en fait, j'ai dû retourner à Marseille parce que j'ai mon travail. Et voilà, donc je suis rentrée vendredi. Et là, je me retrouve dans la situation où du coup, on se parle pas trop par message, mais on a convenu qu'on se reverrait évidemment. Pour lui, c'était une évidence. Et donc, on a prévu de se faire un week-end bientôt, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe et que c'est pas clair. Et voilà, je t'envoie ça sans attente précise, même si j'aimerais bien que tu me répondes. Mais voilà, en tout cas, merci pour ton podcast. J'espère que tu m'as bien entendu. J'espère que c'est audible et voilà.
Cher anonyme, il arrive que ce qu'on vive soit trop beau, trop doux, trop simple, trop parfait pour nos cervelles conditionnées à la complexité. On se dit qu'il y a forcément un loup. On ne pense plus qu'à ça. Et puis parfois, à force de chercher ce qui pourrait clocher, on trouve quelque chose qu'on aurait pu continuer à ignorer longtemps. Quand on est avec une autre personne, ami ou amant d'ailleurs, et que tout se passe parfaitement bien, on se sent comme rempli. Il n'y a pas d'espace libre pour nos angoisses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de moitié, ou qu'on représente souvent les amants comme un emboîtement parfait et complet. Le risque de ce sentiment de complétude, dans la relation à l'autre, c'est qu'on ne se sente jamais tout à fait complet quand on est seul. On a un sentiment de manque, et parfois un sentiment de vulnérabilité. Il est beau, le moment que vous avez partagé. Ne réécrivez pas l'histoire pour qu'elle corresponde à des schémas plus habituels, nuls ou toxiques, mais qui vous rassurerait. Et n'oubliez pas que vous êtes complète aussi quand vous êtes seule. Ce moment partagé doit être une force, un cadeau, et non pas un fardeau qui vous fragilise. C'est une question de confiance. Ici, la personne en face, ou le moment, ne sont pas un problème. Le problème, c'est bien votre capacité à accepter ce bonheur pour vous. Il existe aussi une réalité médicale derrière la déprime après le sexe. On parle de dysphorie post-coïtale. Elle s'explique par une chute des hormones libérées pendant le rapport sexuel, mais également par une difficulté à accepter que les corps ne fassent pas un. C'est un peu ce qui vous arrive, cher anonyme. Ces pensées n'enlèvent rien au moment plaisant que vous avez partagé, mais elles doivent être relativisées par l'expérience. Plus on monte haut, et plus on prend le risque que la chute soit violente, pour revenir à notre normalité au quotidien. C'est souvent un sentiment que l'on connaît au début des relations. C'est la grande passion. On reste enfermé des jours et des jours dans la chambre à faire l'amour, à rire, à se raconter nos vies. On ne mange presque pas. On ne dort pas plus. On a l'impression de vivre sur un petit nuage, dans une bulle que l'on ne veut surtout pas éclater. Ce sentiment très très agréable est pourtant voué à ne pas durer. parce qu'il n'est pas ancré dans le réel. Si ça durait, on finirait par mourir à petit feu, de faim, d'épuisement ou de cystite. Ces souvenirs nourrissent cependant la relation pendant longtemps. On les vit comme des preuves que l'amour est là, qu'on a vécu ensemble quelque chose de fort. C'est un ciment pour la suite. Qu'est-ce qui vous reste à faire alors ? Accepter le creux de la vague d'abord, vous faire confiance et vous donner les moyens de vivre cette histoire pour ce qu'elle vous apporte et ce qu'elle peut vous apporter par la suite. Si les sentiments exacerbés vous font peur, rien ne vous empêche de le verbaliser. Mixez les rendez-vous avec du quotidien super trivial. Allez faire vos courses et acheter du papier toilette ensemble. Parlez de vos impôts dans le café où vous allez acheter votre salade du midi quand vous êtes au travail. Rencontrez vos amis ou vos collègues. Sortez de la chambre qui vous fait tourner la tête pour vous confronter à l'extérieur. C'est aussi une base solide pour une relation. C'est une autre forme de commencement et c'est possible que cela vous convienne plus. Cette période n'a pas à être désagréable, vous savez. Elle doit juste vous ressembler. À vous d'imaginer vos codes, d'exprimer vos réserves ou vos angoisses. Si l'autre personne est prête à les entendre et partage en retour ses propres envies, alors on pourra dire que la relation démarre sous le signe de la communication et de l'équilibre, ce qui est toujours une excellente chose. Pour parler de l'effet montagne russe, j'ai contacté Marie-Aurélie Drumini, psychologue clinicienne. Pourquoi les plus beaux moments nous font souvent nous sentir mal après ?
Alors pourquoi nos plus beaux moments nous font nous sentir mal après ? Tout simplement parce que quand on vit un moment particulièrement fort, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va activer le circuit de la récompense dans notre cerveau. Le circuit de la récompense, c'est le circuit qui nous permet de rester en vie parce qu'il nous pousse à nous alimenter, il nous pousse à nous reproduire. C'est un circuit qui est très très puissant pour notre survie et donc il est plutôt bien foutu. L'idée, c'est que quand on emprunte ce circuit-là, on a très très envie d'y retourner. Et quand on passe un week-end avec énormément d'amour, énormément de joie, énormément de plaisir, potentiellement énormément d'activité physique aussi, ce qui va se passer dans le cerveau, c'est qu'on va activer le circuit de la récompense et le cerveau va produire de la dopamine, plus. Il peut également aussi produire des endorphines, plus. Et donc, tout simplement, quand le week-end est fini et que toutes les stimulations ont disparu, on va se retrouver avec un effet de manque exactement comme ce qu'on pourrait avoir après avoir consommé de la drogue. C'est la même descente qui va se passer, c'est-à-dire que petit à petit, les hormones vont quitter notre corps et ce que notre cerveau va appeler, c'est « vas-y, recommence, j'ai envie de ressentir ça à nouveau ».
Comment sortir de ce schéma de la montagne russe et de la peur qu'on en a ?
La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour limiter l'effet montagne russe qu'il peut y avoir avec des moments où je suis dans de la libération de dopamine à fond, des moments où je suis dans la libération d'endorphine à fond, et puis des moments plus down où là, j'ai de la peur qui peut se créer, j'ai de l'angoisse qui peut se créer, parce que je commence à m'interroger, est-ce que je m'illusionne ? Est-ce que ce que je vis, c'est vraiment la réalité ? Est-ce que je suis pas en train de fantasmer la relation ? Est-ce que je suis pas en train de fantasmer ce que j'ai vécu ? Donc là, c'est la machine qui commence à s'emballer avec des pensées qui viennent exciter un petit peu la peur. Et donc là, il y a plusieurs options pour limiter l'effet montagne russe, l'effet yo-yo qu'il peut y avoir. La première, ça va être de ralentir et de diminuer tous les effets de la peur et de l'angoisse. Par exemple, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui marche très bien. Prendre le temps de respirer. Vous avez l'appli Respire Relax qui fonctionne hyper bien. Vous avez qu'à suivre les instructions et puis ça vous permet vraiment, avec quelques minutes de respiration, de venir diminuer votre taux de cortisol. C'est hyper puissant. Vous avez aussi le fait de pouvoir mettre le corps en mouvement, puisqu'on sait que mettre le corps en mouvement, c'est ce qui va vous aider à venir réguler le cortisol. Donc mettre le corps en mouvement, c'est pas forcément faire un trek ou aller jouer au squash, hein. Ça peut être juste aller se balader dans les rues, prendre le temps de marcher, prendre le temps de courir si on se sent, faire un peu de sport, juste faire quelques mouvements chez soi, déjà ça fonctionne bien. Et puis après, vous pouvez faire tout un tas d'activités qui vont pouvoir augmenter la production de dopamine. Par exemple, on sait qu'écouter la musique, ça peut augmenter la production de dopamine, par exemple. On sait aussi que être au contact des animaux, ça permet d'augmenter la production de dopamine. Tout ça, ce sont des activités qui peuvent vraiment vous permettre de booster votre circuit de la récompense. Le piège, ça serait d'aller chercher du côté des substances qui vont augmenter la dopamine de façon artificielle, c'est-à-dire d'aller taper dans le sucre, d'aller taper dans l'alcool, d'aller taper dans les drogues, le tabac, parce que certes, ça va faire monter votre niveau de dopamine, mais ça va le faire monter de façon artificielle et la descente n'en sera que plus rude.
Comment accepter une histoire qui commence d'une manière peu conventionnelle ?
Moi, je crois qu'en fait, il n'y a aucune histoire qui commence de façon conventionnelle. Ce qu'on sait aujourd'hui sur le schéma de la rencontre amoureuse, c'est que quel que soit le contexte dans lequel il se développe, il y a une phase un petit peu d'idéalisation. C'est-à-dire, je projette sur l'autre ce que j'ai envie d'y voir. Et puis, à cette phase d'idéalisation, où je suis dans la projection, va venir un peu... confrontation réelle, où là, je vais me dire, ah oui, tiens, en fait, l'autre, je pensais qu'il était comme ça, comme ça. Et puis, en fait, je me rends compte qu'il y a des endroits où ça gratte un peu, il y a des endroits où ça cogne un peu, il y a des endroits où il y a des angles où c'est rugueux, et c'est pas tout à fait ça que j'avais imaginé. C'est un petit peu le poil qui traîne dans la salle de bain, on se dit, ah ouais, tiens, en fait, je vis vraiment avec un autre. Et ça, ça va être une étape, de toute façon, par laquelle on va passer au sein, à un moment donné de sa vie de couple. Face auquel on peut soit dire « Ok, je me rends compte que l'autre, il est différent de ce que j'avais imaginé, donc je veux pas construire avec l'autre. » Soit l'autre, il est différent et puis j'accueille comment il est et je construis une nouvelle relation sur la base de comment il est l'autre vraiment en tant que sujet. Ou bien je continue à m'illusionner de me dire que l'autre, c'est que la projection de ce que moi, je veux qu'il soit. C'est, on va dire, trois façons de gérer la vie de couple. Donc là, cette histoire, elle commence de façon peu conventionnelle et en même temps, même si ça commence de façon peu conventionnelle, on peut faire l'hypothèse que ce couple va passer par toutes les étapes du couple parce qu'il n'y a pas de bonne façon de rentrer en relation. Il n'y a pas une façon normale et là, ça démarre sur les chapeaux de roue et c'est leur histoire et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir se l'approprier et accepter que l'histoire, elle commence comme elle commence. Ça me semble être probablement la façon la plus simple de gérer les choses.
Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir le film Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell. Il y est question d'amour, d'être soi, de sentiments exacerbés et de recherche d'équilibre. Et le tout en musique, en perruque et en paillettes. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi, vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à dans 15 jours pour le lancement des hors-séries de l'été.